VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous. 11h, temps universel. Le 27e sommet Afrique-France s'ouvre au Mali cette semaine avec la rencontre des jeunes qui sera suivie par celle des chefs d'État dans la capitale malienne. Les préparatifs du sommet vont bon train, nous dit notre correspondant sur place. Mais à côté, plusieurs organisations de la société civile malienne ont organisé des activités contre le sommet. La plus grande a été le Forum des peuples, dont les participants exigent des alternatives pour un nouveau partenariat économique. Par ailleurs, des magistrats maliens entament eux aussi une grève de 7 jours à compter de ce lundi 9 janvier 2017. Aucune de ces manifestations n'empêcheront toutefois la tenue du sommet France-Afrique au Mali. C'est aujourd'hui que s'ouvre à Dakar le procès en appel de Hissène Habré, l'ancien chef de l'État tchadien de 1982 à 1990. Il a été condamné, vous le savez, à la prison à perpétuité en première instance lors de son procès qui s'est tenu devant les chambres africaines extraordinaires l'an dernier. Monsieur Habré a aussi été condamné à payer 15 000 et 30 000 euros à chacune des victimes, mais il n'a jamais reconnu cette cour cofinancée par l'Union africaine et des pays occidentaux. Qu'est-ce qui va se passer avec cette nouvelle étape judiciaire dans l'affaire Habré? Marcel Mendy est le porte-parole des chambres africaines extraordinaires.
À l'issue de ces différents échanges juridiques entre les différentes parties, le président va suspendre la séance pour permettre à la chambre de délibérer. En principe, le délibéré devrait durer au bas mot 3 mois. Toujours est-il que, à la fin du mois d'avril, le jugement définitif devrait être connu de tout le monde.
Marcel Mendy, porte-parole des chambres africaines extraordinaires à Dakar, au Sénégal. Au Tchad, la nouvelle plateforme dénommée Mouvement pour l'éveil citoyen, MESSI, dérange le MPS, le parti au pouvoir, ainsi que le gouvernement. En fait, le ministre en charge de l'administration du territoire a interdit toute activité de ce regroupement sur l'ensemble du territoire tchadien. N'Djamena, les explications de notre correspondant André Kodmajinga.
C'est pour la première fois depuis 1990, date de prise du pouvoir par le président Déby, qu'un regroupement des différentes entités et corporations ayant pour fondement la refondation de la démocratie et des valeurs républicaines a fait bouger les hautes autorités de l'État. Alors qu'Idriss Déby et ses courtisans ont comme slogan « Le chien aboie, la caravane passe ». Mais cette meute de chiens sous la coupe du Messi retient l'attention particulière de la caravane. Car après les sorties médiatiques du MPS, des partis politiques de la majorité présidentielle et d'une coalition proche du pouvoir dénommée « Touche pas à mes acquis », demandant au gouvernement de prendre ses responsabilités face à ce regroupement, le ministre en charge de l'administration du territoire, Bachar Ali Souleymane, sort de son silence.
Ce regroupement qui s'est fait sans aucune base légale établit un partenariat séditieux avec des organisations dites rebelles dans l'objectif de troubler la paix et l'ordre public interne. Sur la base du droit positif, le ministère en charge de l'administration du territoire effectuera une évaluation de la situation et donnera toutes les suites pénales, administratives et législatives qu'impose cette initiative qui ne saurait être tolérée. En attendant, toute activité de la plateforme dénommée Mouvement d'éveil citoyen est interdite.
Pour Nasra Dimasengar, l'un des porte-parole du Messi, la peur a changé de camp.
Le gouvernement lui-même dit qu'il n'existe pas de mouvement armé au Tchad aujourd'hui. Donc on ne peut pas être de connivence avec un groupe qui n'existe pas. Nous n'allons pas avoir peur d'une déclaration visant à nous intimider. Nous allons continuer nos activités normalement. Que le ministre vienne donc fermer la porte des partis politiques et des associations, et tout le monde saura que c'est un retour à la dictature.
Face à ce bras de fer entre le mouvement pour l'éveil citoyen et le régime MPS, voici l'analyse du professeur Ahmad Mahamat Hassan, constitutionnaliste, indépendant et enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena.
Le problème n'est pas du tout juridique. La question porte sur les fondements de ce regroupement. Le fondement de ce regroupement porte sur les causes et les responsabilités de la crise. Donc ça braque le gouvernement dans une sorte d'accusé. Au lieu de porter sur la recherche de solutions à la crise. Si les uns et les autres s'entêtent, il y aura d'une part un gouvernement qui va mettre toutes les dispositions, notamment sécuritaires. Alors le débat risque d'être tranché dans la rue et c'est ce qui est dommage.
André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Le gouvernement nigérian reste mobilisé pour parvenir à la libération des jeunes filles enlevées il y a presque 3 ans dans la localité de Chibok, dans le nord-est du Nigeria. Le chef de l'État, Muhammadu Buhari, a fait cette déclaration à l'occasion des 1000 jours de captivité de 195 de ses filles enlevées par Boko Haram. Gabi Dorsil.
Après la libération de 21 des plus de 200 écolières enlevées par le groupe islamiste nigérian en avril 2014, plus rien n'a été dit des autres. Mais pour marquer les 1000 jours de leur captivité, le président Buhari a rappelé la volonté de son gouvernement de tout mettre en œuvre pour que ces 195 otages puissent regagner leur famille. « La douleur est dans nos cœurs », a dit le chef de l'État. À Abuja, des activistes du groupe Bring Back Our Girls, Ramener nos filles, se sont déclarés prêts à marcher jusqu'à la résidence présidentielle. Si la fille du président Buhari avait été enlevée, resterait-il les bras croisés ? Ces jeunes filles sont des Nigérianes, tout comme sa propre fille, a dit une représentante du groupe. L'armée nigériane a annoncé jeudi dernier avoir retrouvé une autre lycéenne de Chibok. Si ce dossier a mobilisé l'attention au Nigeria et à travers le monde, il faut se rappeler que Boko Haram a kidnappé des dizaines de milliers de personnes durant ce conflit qui a fait au moins 20 000 morts.
8 policiers égyptiens ont été tués lundi lors d'une attaque qui s'est produite à un point de contrôle routier à El Arish, la capitale de la province du Nord Sinaï. L'attaque, dont la responsabilité n'a pas été revendiquée, a également fait 13 blessés, y compris 4 civils. Elle a été effectuée à l'aide d'une voiture piégée et suivie d'une fusillade. Le corps de l'un des assaillants a été retrouvé dans le véhicule calciné. La péninsule du Sinaï est le théâtre d'une insurrection islamiste qui a gagné en intensité depuis le renversement par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi durant l'été 2013. Les insurgés ont fait allégeance en 2014 à l'État islamique. Le Maroc, sans gouvernement, se réveille ce lundi en mode de crise politique. Pourtant, le premier ministre Abdelilah Benkirane avait suscité des espoirs la semaine dernière en annonçant qu'un cabinet allait être mis en place avec les partis qui formaient la précédente coalition. Mais tout semble avoir basculé au cours du week-end car il a annoncé hier soir la fin des négociations avec 2 partis qui devaient rejoindre cette coalition. Le président syrien Bachar al-Assad s'est dit déterminé à libérer chaque centimètre carré du territoire de son pays dans une interview à des médias français. Nous avons la légitimité pour libérer n'importe quelle zone contrôlée par les terroristes, quel que soit le nom qu'ils se donnent, a asséné le président syrien sur la radio privée RTL. Parti d'une révolte populaire en mars 2011, réprimée dans le sang, le conflit en Syrie s'est rapidement militarisé et internationalisé et a fait plus de 310 000 morts en près de 6 ans.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'Iran a entamé un deuil national de 3 jours après le décès de l'ex-président Akbar Hashemi Rafsanjani, l'un des hommes clés de la République islamique, partisan d'un rapprochement avec l'Occident. M. Rafsanjani avait été un proche collaborateur de l'imam Khomeini, fondateur de la République islamique d'Iran en 1979. Il a occupé différentes fonctions avant de devenir président de la République en 1989 et cela jusqu'en 1997. Le pape François a dénoncé aujourd'hui dans ses vœux au corps diplomatique la folie homicide du terrorisme djihadiste, exhortant une nouvelle fois tous les responsables religieux à rappeler avec force qu'on ne peut jamais tuer au nom de Dieu, évoquant devant les ambassadeurs étrangers auprès du Saint-Siège les nombreux pays touchés en 2016 par le terrorisme de matrice fondamentaliste. Le pontife argentin a dénoncé cette folie homicide qui abuse du nom de Dieu pour s'aimer la mort. Pour le pape, le terrorisme fondamentaliste est un fruit d'une grave misère spirituelle à laquelle est souvent liée aussi une grande pauvreté sociale et ne peut être pleinement vaincue qu'avec la contribution commune des leaders religieux et politiques. Enfin, la comédie musicale La La Land, grande favorite de l'édition 2017 des Golden Globes, est sortie triomphante de la cérémonie avec 7 récompenses pour 7 nominations. Sacré meilleur film dans la catégorie comédie, comédie musicale et lauréat du prix du meilleur scénario, du meilleur réalisateur, de la meilleure musique originale et de la meilleure chanson. La La Land réalise sans faute les acteurs Emma Stone et Ryan Gosling, dont le film suit l'idylle dansée et chantée sur les collines de Los Angeles, ont reçu le prix de la meilleure actrice et du meilleur acteur de comédie pour ce film écrit et réalisé par Damien Chazelle. Jean-Roger Billon, le prochain journal dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.